Bondi Bloc Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondi Bloc Centre de ce mercredi 8 mai de l'année 2019. Les slameurs face à l'actu, saison 1, épisode 4. Bonjour à toi Léonie.
Bonjour Al Pacino aussi, puisque vous m'entendez plus souvent sous ce nom que celui de Léonie.
Bien sûr.
J'ai le plaisir, donc pour commencer, d'avoir Daniel Begdad à la technique, mais aussi animateur du Bondi Bloc Centre. À ma droite, Soufiane Sancon, adjoint au maire d'Orléans, délégué au sport, à la jeunesse et animation dans les quartiers. Et Junkie Palace, qui est technicien de l'image et du son au service de la pédagogie innovante à l'Université d'Orléans. Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, on va commencer tout d'abord dans cette émission par le texte de Junkie Palace pour faire cette petite introduction de cet épisode 4. On t'écoute.
Je me laisse encore ronger par le poison. La flasque d'alcool rangée dans le coffre en bois. Une obsession comme Jason et sa toison. Mais elle n'a rien de l'ambroisie quand je la bois. Son entrée dans ma vie comme un cheval de Troie. Roi, l'esprit de résistance devient vassal. Assurant son pouvoir, les soldats sont par trois. Vaincu par Dioniso, bon un versal. Pourtant, cette guerre, j'étais sûr de la gagner. Ce n'est pas un objet qui allait dominer. Si mon esprit croise le fer, mon corps est vanné. Sans être seul, j'aurais cessé de me miner. Ce combat, tu as décidé de le mener. Peut-on considérer ces gens comme des alliés? Près de la prêtresse, ils m'ont amené. Dioniso, serre-moi un verre, en attendant d'y pallier. Si le dieu grec de la dépendance existait, je n'aurais eu de cesse de le prier. Que de cet odieux poison il puisse m'ôter, de cette substance je puisse me priver. La fumée s'est envolée pour la énième fois. Je ne sais plus si je fume pour oublier, j'oublie pour fumer, ou les deux à la fois. À la base, le cône devait nous lier. Je me retrouve à rouler dans mon canapé, seul devant ma télé, qui peut me regarder. L'esprit par un épais nuage est happé. Je me priverai de manger pour en garder. Où est le mal? Proust avait sa madeleine. Mais vous avez plus de mal avec mon désir. Si j'ai retenté de me couper les veines, c'est parce que j'ai perdu l'idée de plaisir. J'aurais voulu prendre cette grande baffe, que l'on me tire de ma torpeur, que l'on m'aide. Mais l'on vit souvent au royaume de la gaffe. L'on me dit que ma dépendance c'est l'aide. Si le dieu chrétien de l'addiction existait, je n'aurais eu de cesse de le vénérer. Que de cette horrible fumée il m'ait ôté, de ce besoin vital je sois exonéré. Je suis papa et je prends de l'héroïne. Je n'ai pas tourné le dos à ma famille. Il ne me reste que ma belle héroïne. Je peux tout cramer pour l'amour de ma fille. Mon cœur a explosé le jour où elle m'a dit « Dis papa, c'est vrai que tu es un sale drogué. » Il fallait s'y attendre, ils n'ont pas médit. Mais plutôt que m'aider, ils m'ont laissé voguer. Elle s'interroge « Papa, pourquoi tu fais ça ? Que puis-je répondre à un enfant de 6 ans ?» Les abus de la vie où rien ne m'y força. Elle est petite, les enfants deviennent grands. J'aurais mis fin à mes jours sans sa présence. Je veux la protéger, je veux qu'elle soit prête. Elle a rejoint sa mère, je vis la démence. Je suis piqué, c'est promis, demain j'arrête. Si le bon Dieu de l'humanité existait, je n'aurais eu de cesse de le rencontrer. Que l'amour de ma gamine ne puisse m'être ôté et que cette aiguille je n'ai jamais rencontrée. Tu sais, ces histoires ne sont pas les miennes. Elles représentent une réalité cachée. On pense que la vérité est la sienne. Mais les apparences se munissent de panachés. Tu sais, un jour, ces gens, j'ai croisé leur chemin. Seul, personne n'entendait leurs cris de désespoir. On les a forcés à agir comme des gamins, à se cacher des regards pour mourir le soir. Et pourtant, ils ne demandaient pas grand-chose, soit qu'on les comprenne plutôt qu'on les juge. La pression chaque jour définit la dose. Contre le stress, la drogue est un subterfuge. Les gens s'expriment sans maîtriser le sujet. C'est le regard qui les a marginalisés. Quand vous allez mal, vous y mettez le budget. C'est un exitoire qui n'est pas banalisé. Enfin, si les dieux présents en vous existent, à présent n'ayez de cesse de le libérer. Et soyez avec vos proches qui résistent, ce n'est pas en étant seul que l'on est délivré.
Merci beaucoup Junkie Palace pour ce texte. Alors est-ce que Soufiane, tu pourrais nous donner ton ressenti par rapport à ce texte s'il te plaît?
Bah déjà, je trouve que c'est un texte qui est très, très poétique, qui parle d'addiction, de relations paternelles, d'échanges, de situations aussi un peu complexes, parce qu'il semblerait qu'il y ait des incompréhensions, et puis d'un mal-être, ou en tout cas une solution trouvée par un subterfuge qui correspond à la consommation de stupéfiants. Donc non, c'est intéressant.
Merci.
Après, je trouve aussi que ce texte, il est assez poignant, parce que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'actualité, je trouve. Tout ce qui est addiction, ça devient de plus en plus courant. Enfin, ou du moins c'est de plus en plus parlé et on le voit de plus en plus. C'est des choses qui peut-être étaient plus cachées avant aussi. Je sais pas, je connais pas les statistiques par rapport à ça, mais d'une manière générale dans la société, il y a un tas de choses qui étaient quand même beaucoup plus cachées, prohibées et qui étaient des sujets. En fait, il y avait des sujets qui étaient quand même beaucoup plus tabous. Je trouve que la notion d'addiction déjà, c'est quelque chose, au niveau des recherches scientifiques, etc., que j'ai pas beaucoup vu sur le tapis récemment, et pourtant je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, et en effet ouais, ça a été très intéressant, je pense, de le mettre en avant.
Complètement. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai l'impression qu'on a un peu pris un contre-pied à l'heure actuelle, avec au contraire une espèce de sacralisation des différentes drogues. On entend, je pense notamment au rap américain surtout, parce qu'en France c'est un peu différent, où de plus en plus, notamment dans le mumble rap, il y a une espèce d'apologie du fait de se droguer. Et en fait, dans les deux cas, que ça soit justement marginalisé ou au contraire en apologie, je trouve que ça cache vachement le fond du problème, le réel mal-être qui découle des gens qui ont une addiction, qui ont un réel besoin de consommer, qui est très difficile à exprimer.
Non, pour rebondir sur ce que Léonie disait, en fait, ce qui est marrant, c'est que, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont médiatisées, sur lesquelles on communique, mais parce qu'on a des moyens de communication qui sont extrêmement puissants. Il y a la télévision, il y a la radio, il y a les réseaux sociaux maintenant depuis une dizaine d'années. Et les choses qui n'étaient pas forcément dites avant, courent les rues aujourd'hui. Il y a une espèce de banalisation même de ces attitudes, de ces comportements. Et puis les gens parfois disent ouais, la société d'aujourd'hui elle est violente, etc., c'est compliqué, mais ils ont tendance à oublier que il y a pas si longtemps que ça on tuait les gens sur la place publique, hein, on les guillotinait, ils étaient pendus, ils étaient brûlés vifs devant tout le monde. Donc je pense que c'était beaucoup plus violent avant qu'aujourd'hui.
Bien sûr.
Et puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui étaient effectivement tabous, qui étaient pas dites et qui aujourd'hui circulent très très vite, ça fuse extrêmement vite via tous les moyens de communication dont on bénéficie à ce jour, quoi.
Complètement.
Ça c'est certain.
Complètement. Et du coup, justement, ce qui est bien, c'est tu évoquais l'omniprésence de l'information. Je pense que c'est ce qui est bien aujourd'hui, c'est que pour des personnes qui seraient dépendantes, que ça soit à la drogue, que ça soit, je pense notamment aux jeux vidéo aussi, parce que c'est une forme d'addiction à différents éléments. Aujourd'hui, il y a des moyens de se faire aider qui sont en France, en tout cas, assez efficaces. Alors, c'est pas de la magie, hein, c'est de la médecine, donc, mais qui sont assez efficaces et aujourd'hui, justement, cette hyper-information peut permettre à ces gens-là de trouver de l'aide plus facilement. Par contre, la démarche humaine n'est pas pour autant facile pour les trois personnes dont je parle dans le texte, qui sont des personnes réelles avec qui j'ai réellement échangé. Ça a été hyper dur d'arriver à passer le cap, d'arriver à passer le moment où ils se disaient, ben, j'ai besoin d'aide. C'est un truc, c'est humain, je pense. C'est très difficile d'aller demander de l'aide, notamment pour quelque chose où, entre guillemets, et je mets des énormes guillemets quand je dis ça, dans un piège dans lequel on s'est jeté soi-même. Et c'est très dur de dire, ça a été une erreur à la base et aujourd'hui j'ai besoin d'aide, je peux pas m'en sortir tout seul. Et c'était quelque chose que la notion de solitude revient assez souvent dans le texte, parce que justement c'était vraiment le point central entre les trois. C'est un petit peu pour ça que je finissais sur cette conclusion, c'est que tous ils ont eu ce sentiment d'être tout seul face à ça, alors que notamment celle qui fumait, parce que c'est une femme, elle avait sa famille, etc., qui s'avérait être un vrai soutien, mais avant qu'elle fasse la démarche pour se soigner, elle avait vraiment ce sentiment d'être toute seule, en fait.
Ouais, bah oui, mais après je pense que c'est aussi un des problèmes principaux, je dirais que c'est un des problèmes principaux de l'addiction, c'est que on se sent vraiment très seul et enfermé dans cette bulle, hein, de ce que j'en connais, en tout cas l'addiction, il y a cette notion de dépendance et dépendance à un produit, quel qu'il soit. Après, bon, il y a les drogues douces et les drogues dures, ça fait aussi une énorme différence.
Ouais, alors là je vais te mitiger, hein, parce que drogue dure, drogue molle, drogue douce, enfin la drogue c'est la drogue, quoi. Après,
non, bien sûr, je suis pas en train de banaliser le fait que la drogue douce ce soit pas grave, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, en effet, attention, mais je veux dire que les répercussions déjà sur le physique, sur le corps, ne sont pas les mêmes
quand même. Après, non, parce que je pense aux jeunes qui nous écoutent. Allez, bon, vraiment, ça, bah, c'est quelque chose à ne pas faire. De toute façon, c'est interdit par la loi.
Mais ça, c'est sûr.
Le petit jeune, j'allais dire, qui a fumé un joint dans l'année, qui a fumé du cannabis une fois dans l'année, C'est moins dangereux que celui qui en fume 10 par jour. Et puis inversement, on pourrait dire celui qui s'est pris un rail de coke dans l'année, c'est moins dangereux que celui qui prend 10 joints par jour. Enfin, c'est vraiment à prendre des grandes. Pour ça, l'histoire de drogue dure, drogue douce, c'est la dose qui fait le poison, je pense. Hein. C'est ce qu'on dit pour la drogue. Hein. Et puis pareil pour quelque chose qui est en vente libre, hein. Je pense à l'alcool. Voilà. Hein.
Complètement.
Non, ça c'est certain. Je suis pas du tout en train de dire le contraire. La quantité joue aussi, ça c'est certain. Mais c'est aussi ce qui fait la dépendance. Hein. Selon moi, la récurrence et la fréquence à laquelle on consomme fait aussi la dépendance. Enfin, c'est dans les définitions même de l'addiction. Je les ai pas par cœur en tête et je pense que je suis pas une experte là-dedans. Mais par exemple pour l'alcoolique, il peut boire un verre tous les samedis ou un verre tous les soirs en rentrant du travail, ne jamais être sous, mais sera considéré comme alcoolique à partir du moment où il y a dépendance parce qu'il a besoin de ce verre-là en rentrant du travail. Et ça, en effet, je te rejoins là-dessus parce que voilà, on n'a pas besoin non plus de se mettre dans le mal. On n'a pas besoin de pousser l'addiction pour changer d'état, en fait, parce que juste le fait de prendre le produit et de manière régulière constitue la dépendance. On y pense souvent avec la cigarette. Hein. Ouais. Ça fait pas forcément changer d'état. Je veux dire, on peut rester nous-mêmes quand même. On n'a pas l'impression de changer de personne. Enfin voilà, on se retrouve toujours nous-mêmes. On a l'impression d'être sur nos deux pieds sur terre. Et pour autant, ça reste une addiction qui est quand même très difficile à
endiguer.
À endiguer. Ouais, c'est ça. C'est quand même très compliqué. Mais au-delà de la dose, enfin. Cette histoire de drogue douce et de drogue dure, je pense que les impacts, même sur une prise, n'ont quand même pas les mêmes conséquences. Après, c'est mon avis, hein, mais encore une fois, je suis pas experte, mais pour moi, ça n'a quand même pas le même impact de prendre, fumer un joint que de prendre un rail de coke sur le cerveau,
ouais,
déjà.
Mais c'est comme tu disais, après, c'est une histoire de fréquence, en fait, et puis des milieux. Je vais revenir sur la banalisation dont tu parlais tout à l'heure,
bien
les
sûr.
Rappeurs américains qu'on voit en France, hein,
bien sûr.
Calage criminal, Bicrave, la CC, la Gueudreau,
bien
en
sûr.
Direct sur Skyrock, on peut retrouver le clip sur Planète Rap,
bien
où
sûr.
Il explique sa vie de dealer, et puis les Yanks qui sont en yinche, enfin bref, les clients qui sont en attente, il détaille beaucoup. C'est, en fait, c'est un peu le principe de la trappe américaine. C'est les gars, ils parlent de leur quotidien. Donc il y a quelque chose qui est banalisé de ce côté-là. Parallèlement, alors on comprend pas parce que normalement c'est interdit aussi, mais ils peuvent passer sur Internet et puis même dans des grandes radios commerciales. Je pense à l'alcool, puisqu'on parlait de drogue douce, drogue dure, qui est en vente libre et qui fait des ravages en France, enfin pas seulement en France, mais en France en particulier, notamment à cause des addictions qui sont culturelles. Ça serait presque bizarre, je pense, en présence d'un monsieur qui a l'habitude des mondanités, ou très souvent, j'imagine,
et
que
puis
l'alcool
des,
fait partie
des troisième mi-temps, puisque je joue au rugby à la source.
Et donc. Des troisième mi-temps, voilà, c'est culturel, et c'est pas bien évident de faire l'impasse dessus. Alors, je vais parler d'un troisième sujet, c'est celui des opiacés dans les prescriptions aux États-Unis, de plus en plus de morts, voilà, par overdose, et ça arrive en France aussi, sur des, comment on appelle ça, les antistress, antidépresseurs.
Sur les antidépresseurs, voilà. Les antidouleurs,
voilà.
Sur des somnifères notamment aussi.
Même en France,
avec de l'opium de plus en plus, et beaucoup, la France, premier consommateur d'antidépresseurs et de cannabis.
Sur d'autres continents, il y a des choses qui s'achètent, des médicaments qui s'achètent dans des boîtes de 500 grammes, 1 kilo. Quoi. Et effectivement, là, juste pour répondre rapidement au propos d'Al Pacina, il est important de rappeler, comme ça a été évoqué également de façon un peu ironique, moi, je pense que faut pas. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de ce qu'il a à faire. Chacun a son libre arbitre. Sinon, dans un monde totalitariste, c'est le principe de la liberté. Maintenant, après, à partir du moment où on commence à rentrer dans un cycle qui est celui de s'autodétruire, là, effectivement, il y a danger pour soi, il y a danger pour les autres. Et à partir du moment où dans un cycle aussi où on commence ou potentiellement à devenir dangereux pour les autres. De par des capacités qui sont annihilées, de par un processus d'autodestruction, hein, puisque le principe même, tout à l'heure, c'est beaucoup plus insidieux, mais la cigarette, ça ronge. Ça fait pas du bien, a priori, ça fait du mal. Il y a effectivement cet état de dépendance. Et puis, il y a cette histoire de loterie quant à la façon dont ça peut faire basculer dans des maladies qui sont irréversibles ou pas. Donc, c'est une question de responsabilité maintenant. Est-ce que ce sont au pouvoir public de l'assumer? Est-ce que ce sont aux gens individuellement et à la collectivité ou à la société de prendre ces responsabilités-là aussi? Jusqu'où on va dans la posture aussi et dans l'attitude qui correspond aussi au jugement de l'autre pour lui dire ce que tu fais, c'est bien ou ce n'est pas bien? Et c'est là où justement il y a la limite et voilà la ligne à passer pour dire ouais parce que l'alcool c'est vendu effectivement c'est en vente libre hein, partout et c'est éminemment destructeur sauf que aujourd'hui ça permet de ramener de l'argent aussi
aux alcooliers
à l'État
à l'État oui bien sûr
à l'État par les impôts les taxes tout ça machin donc
cigarette c'est pareil hein.
Cigarette idem c'est commercialisé mais si c'est commercialisé aujourd'hui c'est réglementé c'est donc voilà une distribution qui est organisée
hypocrisie quand même
une belle hypocrisie.
Enfin, je pense à ce que disait Al Pacino, quelqu'un qui va. C'est la récurrence effectivement qui fait qu'il y a dépendance. On nous dit toujours, on voit des campagnes de publicité, pas de plus de 2-3 verres par jour. Enfin, 2 verres pour les femmes et 3 verres pour les hommes.
Et 5 fruits et légumes.
Quand on va sur le site de l'OMS, on en est à 10 doses par semaine. Ça veut dire que ce qui est recommandé par le ministère de la Santé
les
en France
est
3 fois supérieur à la dose aux prescriptions de l'OMS qui compare l'alcool au même titre que l'héroïne comme drogue dure. Hein, voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a que ça pour calmer un héroïnomane. Hein, c'est 2 bouteilles d'alcool fort. Hein.
Mais du coup, déjà pour rebondir sur ce que tu disais, Al Pacino, je pense qu'un des autres éléments qui rentre dans cette analyse, même sans tomber dans drogue dure, drogue douce, etc., on n'a pas tous la même approche à la dépendance, c'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui vont pouvoir avoir des grosses consommations ponctuelles, évidemment, sinon on tombe dans le cadre de la dépendance, et sur lequel il ne va pas y avoir d'effet rétroactif, ça ne va pas créer une dépendance, et des fois il suffit d'une conso pour quelqu'un pour qu'il devienne totalement dépendant. On n'a déjà pas tous la même réaction à ça, et le deuxième élément par rapport à ce qu'on disait par rapport à ça, c'est que mince, je me suis perdu. L'hypocrisie, pardon. Au fait que tu parlais des artistes qui, au final, on rentre dans quelque chose qui est un peu différent. Je pense que dans l'art de manière générale, et c'est pas valable que pour l'addiction, la consommation, le fait de on crée une histoire. Donc je veux dire, au cinéma on parle de meurtre, c'est pas pour autant que voilà les gens se disent hop super je vais tuer. Par contre, à l'inverse, quand je faisais référence au rapport américain, je pense à Lil Pump par exemple, c'est un exemple qui est assez connu. Il en parle dans ses clips, certes, dans sa musique, certes, donc ça c'est sa création artistique. Il crée un truc où les drogues font partie de la vie, ils utilisent des éléments de la vie qui font partie de la vie, on se comprend, c'est pas pour autant que je suis positive, hein. Mais ils utilisent des éléments qui existent pour en faire une histoire, ok. À l'inverse, il est tout le temps shooté sous Xanax et il en fait des stories où il dit à des gamins, parce que c'est essentiellement des gamins qui suivent, c'est génial, je suis fracasse sous Xanax. C'est plus cette partie-là en fait que j'évoquais, c'est-à-dire que des artistes français qui te parlent de Bicraft, de clients, etc. Ça reste une histoire. Il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du faux. Ils fantasment. On a des fois, on parle du fantasme de la cité. J'y ai jamais vécu, donc je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Mais souvent, on utilise le terme de fantasme de la cité. Et là, à l'inverse, les gars, ils sont complètement fracasses. Et c'est un état de fait. Ils sont déglingués. Je crois que Lil Pump n'a jamais donné une interview où il est pas défoncé. Et c'est là où je parlais de banalisation par ces mecs-là qui, du coup, érotisent vachement le truc. Le terme érotise a un côté très sexuel, mais je pense que vous avez saisi l'idée.
Ouais, après, il y a l'histoire, il y a la dissociation qui se fait en disant qu'il y a les rappeurs, il y a le rap conscient, et puis le rap un peu déglingué. Enfin, moi, j'accroche pas du tout sur le rap qui fait l'apologie des comportements déviants. Effectivement, on peut dire que ça correspond à de la science-fiction. Ceci dit, ce sont des propos qui sont tenus, qui sont dits par des personnes qui sont extrêmement visibles, qui sont perçues comme étant des modèles, et qui ont des discours qui vantent les mérites de tous ces comportements qui sont complètement destructeurs. Et où des clips des fois où on voit des scènes de violence, etc. Enfin, il y a 99% des rappeurs qui ont jamais fait le quart de ce qu'ils sont en train de raconter, et qui sont bien plus violents dans leurs propos. Enfin, moi à un moment j'ai eu l'occasion d'échanger avec un rappeur une fois et je lui dis non mais les propos comme ça moi ça me dérange, ça me fatigue. Le jour où vous serez tous montés dans une cage de MMA, vous la serez collés sérieusement les uns sur les autres et que vous aurez dépasser vos limites et vous pourrez vous prétendre être carrément des déglingos qui peuvent être des exemples dans l'engagement total et absolu, mais aujourd'hui ils s'en tiennent qu'à la parole quoi. Donc c'est et puis la consommation de substances qui déconnecte totalement et vanter cela comme étant des choses extraordinaires, je trouve ça totalement irresponsable,
complètement.
Alors après je pense qu'il y a quelque chose aussi de particulier, c'est que en effet les publics écoutent, il y a pas mal de l'adolescence. Et le problème étant que, enfin, après moi je parle surtout du rap français du coup de ce que j'entends, il y a quand même cette notion de produit qui déglingue. Ça fait du bien parce que on vit dans un monde de merde et que ça nous soulage de ça en fait. Ça nous soulage du enfin j'entends beaucoup ça nous soulage du quotidien pourri qu'on vit en fait dans cette cité qui paraît d'un côté si magnifique parce que ça rapporte de l'argent. À côté de ça, bah on charbonne donc c'est dur, donc on fume, on consomme et ça nous fait du bien. Et je trouve que c'est d'autant plus vicieux entre guillemets du fait que ce soit des adolescents qui écoutent ça, parce qu'un public adulte n'a pas les mêmes bagages pour prendre de la distance et du recul par rapport à tout ça. Ils ont déjà construit et la capacité de réflexion, je dis pas que les adolescents sont des teubés hein, mais il y a quand même des choses du développement de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, stade adulte, ça veut pas dire quand on a 18 ans, hein. On peut aller jusqu'à 25 ou 30 ans pour finir notre adolescence, mais pour arriver à maturité complète, de la capacité de réflexion, etc., le public qui écoute ça, pour moi, n'est pas en capacité de faire la part des choses, en fait, dans tout ça, et l'image qui est renvoyée, elle est imprégnée, en fait, dans ces personnes-là, et c'est ça que je trouve terrible, en fait, là-dedans, c'est que beaucoup aussi, à l'adolescence, beaucoup ont besoin de repères, de modèles, comme tu le dis, comme tu le disais très clairement et très justement. Et en fait, ces modèles-là, c'est facile de s'en imprégner parce que justement, à l'adolescence, on se sent mal et que y a quelqu'un qui dit qu'il se sent mal aussi dans les écouteurs. Mmh. Et du coup, c'est facile de s'identifier à quelqu'un qui se dit en mal-être aussi. Et du coup, dans cette identification, il y a la solution aussi qui est apportée. L'idée du produit paraît être une solution. Bien sûr. Ça, on le retrouve dans n'importe quelle dépendance quand les gens voient le produit et se disent que c'est une solution. Mais non seulement avant de voir le produit, ils voient le produit, mais avant de voir le produit, il y a quelqu'un, entre guillemets, qui vient leur faire la pub de ce produit en disant que c'est une solution. Et ça... à très grande échelle, parce que je suis désolée, mais je trouve ça très triste, mais aujourd'hui, dans un clip de rap, à moins de faire des recherches pointues sur YouTube, de s'intéresser aux groupes qui sont pas les plus vus, d'aller chercher un petit peu, au-delà des premières, suggestions d'Internet, on tombe pas sur des clips de rap où il n'y a pas de bédo. On tombe pas sur des clips de rap où on parle d'autre chose que de la bibi. Enfin, clairement, c'est triste, en fait, parce qu'on apporte cette image.
Je veux quand même pas qu'on laisse l'impression qu'on tacle totalement le rap, parce qu'il y a de très bons artistes. Et par rapport au fait qu'on parle, le rap étant quand même une culture qui aujourd'hui touche un public large, c'est pour ça que j'avais fait cette analogie-là. Mais je pense que la banalisation de produits qui sont toxiques ou en tout cas qui peuvent créer une addiction, ça date pas forcément d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui ont à nouveau érotisé ou en tout cas rendu classe l'alcool. Je veux dire, on a tous des images de grands patrons, etc., qui servent un super whisky dans un verre qui coûte le PIB du Yémen.
C'est dur pour le Yémen.
Je suis désolé pour eux et mais qui coûte, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que ça donne un côté, l'alcool, cet alcool, ce côté, il a un côté classe et justement cette notion d'ascenseur social, non, c'est pas le terme, de si vous voulez monter socialement, il va falloir passer par là, consommer un super whisky, etc. Et pareil pour la cigarette. Je finirai là-dessus. La cigarette qui, du coup, il faut se le rappeler, l'industrie du tabac, à un moment, a utilisé le lobby pour dire « fumer, c'est super bon pour la santé ». Je finis juste sur un dernier mot, si tu le permets. Si, qui que vous soyez, vous avez des problèmes d'addiction ou vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, faites l'effort, je sais que tout le monde vous le dit, mais faites l'effort d'en parler à des gens qui sont compétents. Du coup, par rapport aux personnes dont je parle dans le texte, elles sont allées voir des personnes compétentes, elles se sont fait aider. Aujourd'hui, elles ont plus de problèmes d'addiction. Ça reste compliqué pour ces personnes-là. Je vous dis pas que c'est de la magie, mais ces trois personnes-là m'ont décrit une sensation de revivre. Donc, vous pouvez contacter des personnes compétentes et ça vous fera le plus grand bien.
On pense à la Pléiade, par exemple, évidemment. Et puis, s'informer. Enfin, moi, je me suis souvent aperçu que des personnes qui se droguaient savaient pas vraiment ce qu'elles consommaient, par exemple en termes de cannabis ou même la dépendance à l'alcool. C'était quoi les signes avant-coureurs ? Et très très important de s'informer, d'éduquer la jeunesse.
Bien sûr.
Alors, je sais pas, Soufiane Sankou, vous avez quel âge ? À peu près.
J'ai 44 ans.
44 ans. Moi, je me rappelle dans l'arrivée du rap dans les années 90, Rico, la meca, c'est du caca. C'était pas bien de se droguer à l'époque. Ouais. C'était mal vu dans l'esprit hip-hop. C'était pas trop promu quand même.
Non, tout à fait. Enfin, moi, j'ai grandi plutôt avec du coup NTM, avec. Ouais. Enfin, j'étais pas fan d'IAM, mais ils étaient là malgré tout. Et celui que j'ai toujours apprécié par rapport à ses textes et j'écoute encore aujourd'hui, à l'époque, c'était IDLJ.
Ouais.
Kerry James. Donc, qui lui, justement, a un rap qu'on qualifie de conscient. Oui. Ouais. Avec des propos justes. Mmh. Alors voilà, il dénonce beaucoup de choses. Tout à l'heure, on disait, vous parliez de jeunes qui disent que c'est difficile. C'est vrai que ça peut beaucoup de situations qui peuvent être difficiles, autant pour des jeunes qui vivent en milieu rural que des jeunes qui vivent dans des quartiers cossus en centre-ville, que ce soit à Orléans, à Toulouse, Bordeaux, Paris, etc., à Londres. Chacun a sa sensibilité, effectivement, et on est qui pour le juger, ça. Maintenant. Ce qui est certain, c'est que la vraie misère, elle est pas ici malgré tout. J'ai discuté il y a pas très longtemps dans le cadre d'un atelier et d'échanges avec des jeunes de leur la façon dont ils vivaient. C'était des jeunes du quartier de l'Argonne, leur quartier, etc. Et puis il y en a un qui me dit ouais, c'est compliqué pour nous tous, c'est la misère ici. Et puis moi, je suis allé dans le pays d'origine de mon papa. Il y a 2 ans, et ça m'a marqué, quoi, pour la première fois de ma vie, donc à 42 ans pour le coup. Et là-bas, c'est vraiment la misère. Là-bas, c'est vraiment dur.
C'est quel pays ?
La Guinée-Conakry. Et donc un pays qui a connu des guerres encore il y a peu de temps et qui était sous la dictature de Sékou Touré, qui a refusé la décolonisation douce qui a été initiée par De Gaulle. Donc du coup, qui a été complètement sous embargo, donc qui a connu et qui connaît aujourd'hui des grosses problématiques d'aménagement urbain, d'électrification des cités, enfin, des coupures pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures, 10 heures d'électricité dans le centre-ville, comme ça, ça tombe. Et puis, il n'y a pas de rouille, quoi, il n'y a pas de route. Moi, j'étais choqué par ce voyage qui a été court, mais là-bas, c'est vraiment la misère. C'est vraiment compliqué, quoi, de y survivre.
On poursuit ?
Ouais, on poursuit.
Alpacina.
Alpacina, c'est ça. Juste un dernier petit mot, je pense qu'il est important de le préciser. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que quand on est dépendant d'un produit, c'est pour la vie. Et qu'on ne peut pas effacer notre addiction. C'est quelque chose qui restera à vie et on peut se sevrer d'un produit. Mais ce sera toujours difficile parce que physiquement, il y a des petits récepteurs qu'on crée dans notre cerveau avec les hormones. Et les hormones du plaisir. Et en fait, quand on consomme du produit, il vient se fixer sur ces petits récepteurs du plaisir. Et du coup, notre cerveau a besoin de recréer plus de récepteurs parce qu'ils sont bouchés par le produit. Et c'est là où se crée la dépendance. Et souvent, on entend que les consommations augmentent parce qu'en fait, le produit ne suffit plus. Et il y a besoin de plus parce qu'on crée de nouveaux récepteurs. Alors, il faut faire attention. Si même, par exemple, vous essayez d'arrêter, vous voyez que c'est compliqué, etc., et que vous reprenez, n'augmentez surtout pas votre consommation de produits et essayez de ne jamais augmenter et de retomber dans plus de consommation pour au moins essayer de limiter les dégâts. Et pour ceux qui ne consomment pas, au moins vous le saurez.
Je me permets de citer un médecin addictologue parce que du coup, ces gens-là, je les ai rencontrés et du coup, j'ai rencontré aussi leur médecin. Et en fait, du coup, le médecin disait que, en fait, le corps assimile le produit comme le quatrième besoin vital, en fait. C'est-à-dire que, du coup, au final, ce besoin est vraiment au même titre que manger, dormir, boire, et même, en fonction, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, je peux pas être strict sur ce terme-là, mais il devient même le besoin vital et les trois autres deviennent secondaires, entre guillemets. Et je reviens sur cette histoire de sevrage. C'est quelque chose que, du coup, la médecin, parce que c'était une médecin, disait. Le risque de rechute est présent, comme tu disais, on est dépendant à vie, on peut juste se sevrer. Il faut aussi se dire, et ça c'est un message que les trois me passaient et sur lequel j'étais assez admiratif, le risque de rechute existe et c'est d'autant plus dur d'accepter justement l'échec entre guillemets. Et justement, si vous avez réussi à vous sevrer, vous êtes peut-être à l'abri de rechuter, mais soyez d'autant plus fort
et c'est pas un échec.
Et c'est pas un échec.
Parce que c'est une victoire d'avoir réussi.
J'allais conclure là-dessus.
Tout à fait.
On est d'accord.
On est sur la même longueur d'onde. Et du coup, pour poursuivre, moi, je vais vous dire que...
La longueur d'onde, c'est le 88.3. Et
ouais,
on poursuit avec toi, Alpacina.
Bah oui, parce qu'il existe d'autres types d'addictions que les produits stupéfiants. Et moi, je vais vous en parler d'une qui est très courante. J'aurais aimé qu'on se comprenne. J'aurais aimé être comprise. J'aurais pu parler toutes les langues humaines, tu n'aurais jamais perçu ton emprise. Parfois la vie, les sentiments me donnent des coups bas, mais c'est parfois que je trouve le courage. Il n'y a pas de sens dans les sentiments, trouver le bon sens, être sensé, c'est ce qu'on est censé faire, mais quand je te regarde, ma boussole est déboussolée. Elle ne trouve plus le sens, la direction à suivre. Du coup, j'attends sagement que tu me donnes les directives à suivre. Moi, le lion, le roi, je perds ma voix. Je ne peux plus rugir, je rougis et je m'incline car tu guides ma voix. Quand ton regard me regarde avec insistance, j'ai la pression, j'ai l'impression qu'il voit en moi. J'essaye d'adopter la bonne posture, celle qui te fera m'aimer comme je t'aime. C'est le thème du texte « L'amour » et pourtant, toi, tu ne m'aimes pas. J'avais l'impression que ton regard me traversait, mais tu n'as vu que le départ de cette traversée. T'as traversé la rue, pas pour trouver du boulot, mais pour trouver l'amour. Sache qu'au bout du grand chemin, la seule chose que tu trouveras, c'est la mort. Mis à mort, t'as vu en moi un bonhomme dans un corps de femme. T'as pris mon corps sans pour autant vouloir de mon cœur. Mis à mort, si tu savais. Si tu avais ouvert les portes de ton cœur au lieu de vouloir ouvrir mes cuisses, t'aurais vu tellement plus qu'un corps de femme. Tu aurais vu la flamme brûlante d'une envie de vivre, brûlante d'amour à en devenir ivre. Derrière le cadenas, j'ai caché tellement de trucs. Mes sentiments jouent à cache-cache pour éviter la lutte. Car parfois la vie, les sentiments me donnent des coups bas, mais c'est parfois que je trouve le courage. Il n'y a pas de sens dans les sentiments, trouver le bon sens, être sensé, c'est ce qu'on est censé faire, mais on fait autrement car le mode d'emploi n'est pas écrit. Ce n'est pas comme ce texte où chacune des émotions est décrite. Tu penses que je vais dicter trait par trait qui je suis ? Non, mi amor, parce qu'un jour, si tu as la curiosité de chercher, alors point par point je te suis. Bonhomme au cœur caché, j'ai cherché à montrer féminité. Féminité biaisée parce qu'il faudrait se faire baiser. Oh mon amour, comprends-moi. Moi, je comprends pourquoi tu ne me comprends pas.
Merci. Du coup, en effet, une autre forme d'addiction qui est l'amour.
Heureusement qu'il fait beau dehors, hein, parce que depuis le début, là, c'est...
C'est du lourd. On envoie du lourd, c'est nous, du lourd. Les slammers face à l'actu.
Mais il y a plein de soleil dehors. Au-dessus des nuages, de toute façon, hein, on le sait bien.
Ouais.
Bravo.
Merci, c'est Bravo. Très gentil.
Dans l'amour charnel et l'amour spirituel, du coup.
Ah oui, il y a un peu de tout là-dedans. Hein. Mais souvent, on le lit souvent. Hein. Ouais. On le lit souvent. Et on mélange souvent les choses. Alors
on en revient à l'addiction aussi. Enfin, l'alcool, la drogue, ça a des incidences physiques et psychiques. Et sexuelles et des incidences sexuelles aussi.
La nourriture,
des fois.
Bien sûr.
La nourriture, tout est lié.
Forme de nourriture.
Ah bah, moi, je pense et j'ajoute à ça, c'est un peu plus pervers, mais quand on tombe dans tout ce qui est violence conjugale, en fait, il y a la notion d'emprise. Qui est réel et c'est une forme d'addiction pour moi qui est très très fin à prendre avec des pincettes hein, quand je dis addiction.
Alors, qu'est-ce
attention.
Que tu appelles l'emprise?
Oula, on va pas rentrer dans des définitions très précises, mais je suis en train d'étudier ce sujet pour mon mémoire.
Ah ouais, d'accord.
Je viens de commencer, alors c'est encore flou, mais en fait. On va parler d'agresseur et d'agressé hein, pour être très clair. L'agresseur domine d'une certaine manière sur l'agressé. Et il y a une forme d'influence, en fait. Et l'agressé est clairement sous l'influence, en fait, de son agresseur et a besoin de lui. Parce que sa propre personne, son entité, n'existe plus à part entière. Elle vit au travers de son agresseur, au travers du regard de son agresseur. Et c'est ça qui fait en fait cette forme de dépendance. C'est que la parole de l'agresseur prend le dessus. Et c'est elle qui va dessiner en fait l'image de l'agressé. C'est lui qui décide. Il peut porter le coup, mais ce sera la faute de l'agressé parce qu'il le dessine de cette manière-là. Et l'agressé le verra de cette manière-là. En fait, voilà, il lui fixe son image. C'est lui qui fait le film.
Là, on voit vraiment un drogué dépendant à son dealer, en fait, qui est capable d'entendre tout et n'importe quoi de la part de son dealer, pourvu qu'il lui donne sa dose et qu'il lui permette d'exister. Ça rejoint un peu ce qu'on voyait tout à l'heure.
Je dirais même carrément le produit. Je dirais même au-delà du dealer. Je dirais même carrément le produit. C'est lui qui le nourrit. C'est lui qui le nourrit parce que sans lui, il est vide. Et ça, pour moi, c'est l'état de dépendance.
C'est peut-être même un poil plus insidieux que ça, dans le sens où le produit, il est tel qu'il est. Il ne se change pas pour... entre guillemets, il ne peut pas, désolé du terme, passer de la pommade. Là, dans le cadre qu'on décrit là, on va prendre l'image du mari violent ou le compagnon violent, qu'importe.
Ou la compagne violente.
Ou la compagne, effectivement, même si on est quand même plus sur, à l'heure actuelle, sur un format homme violent envers les femmes, même s'il ne faut pas nier les autres agressions, une majorité, merci du terme. Et du coup, il peut, et c'est souvent ce qui se passe, enrober les choses, c'est-à-dire que si à un moment la situation lui échappe, à l'inverse du produit qui lui est inactif, lui il va être capable de modeler la situation pour reprendre le pouvoir. Donc je trouve ça, voilà, je trouve ça encore plus insidieux finalement, parce que là finalement il y a presque aucune chance de s'en échapper. Et c'est, je sais plus les chiffres actuels, mais il me semble que en début de semaine on était déjà 72 femmes qui étaient tuées sous les coups de leur mari depuis le début de l'année, ce qui me semble un chiffre colossal et très dangereux.
Même s'il y en avait qu'une, hein.
Même s'il y en avait qu'une, mais c'est d'autant plus inquiétant vu le chiffre. Mais je suis d'accord avec toi.
Je ne te contredis pas, je cherche pas la contradiction.
Une, c'est déjà une de trop, on est d'accord.
C'est ça, c'est plus dans ce sens-là, je veux dire.
On est tout à fait d'accord là-dessus.
Ouais. Des réactions, Sofiane ?
Non, mais moi, ça me fait penser à mon sujet de tout à l'heure, mais qui est complètement en lien un peu avec tout ce qu'on dit là, mais le principe d'emprise, le principe de manipulation des gens, et c'est marrant parce que d'une façon générale, on aspire à ce que les gens s'émancipent, donc on décide de dire qu'il faille que les gens s'émancipent là où certains ne souhaitent pas s'émanciper. mais on est tous dans le modèle qui correspond à ce à quoi on aspire, et c'est ce qui me dérange le plus, lorsqu'on est dans un modèle pour lequel on souhaiterait que les autres soient dedans aussi et qu'ils soient conformes au modèle dans lequel on se projette nous-mêmes et dans lequel on n'est pas forcément non plus par ailleurs. Parfois, si on analyse bien, on n'y est pas toujours. Donc c'est assez marrant, et le texte que j'aborderai tout à l'heure pour ce qui est de l'intitulé, il s'appelle Les bien-pensants. Donc c'est là où ça a complètement son sens, du coup, avec tout ce qu'on dit là, quoi.
Il est assez dur, ton texte, Al Pacino, sur l'amour.
Ouais.
Tu nous parles d'emprise, de dépendance.
Bah après, ça, c'est ma manière de penser. Je le dis de manière un peu plus jolie dans le texte. Et puis, sans le prendre aussi à cœur, ce texte, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent, hein. On peut pas être aimé par tout le monde. Par contre, on a le droit d'aimer qui on veut. Et c'est compliqué, en fait, parce que l'amour, ça, on aimerait qu'il induise une réciprocité, alors que c'est pas toujours le cas. Et c'est ça qui souvent peut faire souffrir. C'est qu'on attendrait et on espérerait tous, je pense, que ceux qu'on aime nous aiment autant qu'on les aime déjà. Des fois, il y a aussi ça, hein. On essaye de quantifier quelque chose qui n'est pas forcément quantifiable. Et on se rend malheureux, en fait, avec tout ça. Et j'y ajoute le lien au corps, parce que je prends mon exemple, hein, côté un peu bonhomme, tout ça, faut pas se leurrer, hein, c'est rigolo, Al Pacino, tout le monde aime bien en rigoler avec moi, et puis le fait que je paraisse bonhomme, c'est rigolo, mais au niveau de l'amour, c'est très compliqué. c'est pas une blague, parce que Al Pacino, du coup, c'est un bonhomme, et puis le jour où moi j'ai envie de me présenter comme femme, et puis j'ai envie qu'on m'aime, c'est compliqué parce que beaucoup d'hommes aiment les femmes qui rejettent quelque chose de très féminin, en fait. Je pense que c'est pas... Enfin, souvent...
Qui renvoie quelque chose, pas qui rejette.
Pardon, excuse-moi, le terme était mauvais. Qui renvoie quelque chose de féminin, et je pense que c'est aussi lié à ce qu'on voit à la télé, etc.
Je vous renvoie vers le numéro spécial du Monde de ce mois-ci sur la sexualité, la révolution sexuelle, parce que ce que tu dis sur les femmes qui devraient être féminines et les hommes masculins, inversement, il y a des hommes justement qui dégagent quelque chose de féminin et qui aimeraient bien qu'on voit leur part masculine. Je pense que la balle est... Enfin, c'est 50-50.
Ouais, l'homme absolu.
Pourquoi tu me regardes comme ça quand tu dis ça?
Qui c'est? Ah non, ah non, non,
non, non, c'était, c'était une blague, c'était une blague.
Pas regarder moi.
Non, je crois qu'on vit une révolution depuis quelques années. Il y a l'évolution du, il y a l'éducation au genre qui se fait dans les écoles maternelles. Ça n'a pas été facile. Ça date de quelques années seulement. Qu'on parle aussi de l'égalité homme-femme, le mouvement MeToo, etc. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Puis là encore, c'est aux jeunes générations qu'il faut s'adresser. Soyez vous-même, be yourself.
Après, c'est je pense qu'il y a des nuances à apporter par rapport à l'éducation au genre dans les écoles. Enfin, ça c'est un thème sur lequel je pense qu'il faut être très vigilant, parce que on se dirait tout de suite, ah mais c'est drôlement bien quoi. On apprend que une femme c'est pas forcément censé être avec un homme, et un homme c'est pas forcément censé sortir avec une femme. Mais faut savoir que dans certaines écoles, l'éducation au genre c'est l'élimination des genres. Et ça, faut y faire très attention, parce que je pense qu'on essaye de supprimer une part de notre identité, en fait, à travers tout ça. Donc c'est vrai, c'est important hein, de dire qu'on n'est pas obligé de répondre aux images de la société. Je suis pas en train de dire qu'il faut répondre à tout ça, aux commandes, en fait. Faut pas répondre à une commande, ça je suis d'accord. Mais des fois, la volonté d'éliminer un genre, pour moi, on est né, en fait, avec quelque chose. On est né avec un corps. On est né avec un zizi.
Non, c'est pas d'éliminer un genre. C'est pas d'éliminer un genre.
Mais dans certaines écoles, si.
Ouais,
en fait,
alors ça
dans
pourrait y aller. La dérive. Moi, je crois que c'est accepter l'individu derrière son genre, quoi. Un homme peut aimer d'autres hommes, une femme d'autres femmes, et voilà.
Sous cet angle-là, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut être très vigilant, parce que il y a cette volonté-là qui a été poussée très très loin. Et dans certaines écoles, je n'ai plus le nom en tête, mais...
Bah, de toute façon, on n'aurait pas fallu le dire.
Ça tombe bien. C'est l'acceptation des individus dans leur pluralité, quoi. À un moment, on adore faire des groupes, on adore cliver, on adore ne pas mélanger, on adore désigner, flécher. Moi, il y a un terme qui me fait dresser les cheveux sur la tête que je n'ai pas. Qui dérange personne, c'est les minorités visibles, par exemple. Minorité, c'est-à-dire qu'il y aura une majorité invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire des choses qui sont des aberrations, mais qui placent dans des cases et qui catégorisent, quoi qu'il en soit, les individus, les groupes. Et parce qu'il y en a certains que ça rassure aussi de le faire. Et puis ça permet aussi de conforter certaines situations et donc de verrouiller certains systèmes, bien évidemment. Donc c'est dommage, mais il n'y a pas grand monde qui se bat là-dessus, malgré tout.
C'est le paradoxe de l'universalité.
Enfin voilà, je voulais juste qu'on soit vigilant à dire que.
Ah oui, mais alors là, je suis désolé. L'universalité, il y a aussi ce que Patrick Chamoiseau appelle la diversalité. Je suis d'accord. Ah bah, je t'invite à découvrir la diversalité qui est opposée à l'universalité.
Mais justement, ce que j'appelais le paradoxe de l'universalité, c'est que on a un côté très universel dans ce que tu évoquais. Ouais. La femme doit être absolument féminine, etc., etc. Et au final, à l'inverse, dès qu'il y a quelque chose qui peut amener à une universalité, comme tu évoquais, le fait de parler de minorité visible, hein, d'y créer une majorité invisible, bref, je suis assez d'accord avec toi, Sofiane, c'est pas cohérent pour moi. Effectivement, c'est là où, pour moi, il y a un paradoxe, c'est qu'on cherche à viser une un sens commun pour tout le monde sur certains sujets, mais dès qu'il s'agit de vraiment mettre tout le monde dans le même sac, pauvre, riche, noir, blanc, femme, homme, gay, hétéro, etc. On peut faire plein de clivages. Bah alors là, non, quand même, surtout pas. Je vais pas ressembler à celui-là. On reprend l'exemple dont on a parlé la dernière fois, Bilal Hassali. Non, quand même, je vais pas ressembler à lui. Je suis pas pareil. C'est complètement débile. Soit t'es universel, soit tu l'es pas. Mais il y a un moment, tu peux pas faire les deux.
C'était le chanteur de l'Eurovision, c'est ça?
Exactement.
On a gagné, on n'a pas gagné, non?
Je sais pas, j'ai pas regardé. Et je
ne m'intéresse
toujours pas.
Ouais, oh là là.
Ça m'intéresse pas.
J'ai voulu faire style, je m'intéressais à l'Eurovision. Désolé. Je me suis grillé tout seul.
Non, mais sans vouloir s'y intéresser, c'était quand même beaucoup sur les réseaux.
Oui.
Qu'on s'y intéresse.
Non, mais attends, on en a déjà parlé, quoi. C'est-à-dire que sa chanson, je sais même pas si je l'ai entendue. J'ai entendu parler de lui, mais malheureusement. Bon, après, c'est l'Eurovision, enfin bref.
C'est
compliqué comme sujet, quoi.
C'est pas plus que ça.
En tout cas, mesdames, vous n'êtes pas des femmes juste de par votre corps, en fait. Et vous n'êtes pas obligées d'avoir du vernis sur le bout des ongles et de mettre des talons et une jolie robe pour vous sentir féminine et être féminine. Voilà, ni pour trouver l'amour d'ailleurs.
Soyez ce que vous voulez être.
C'est ça. Et acceptez ce que vous êtes aussi.
Exactement.
On continue avec ton texte, Soufiane, tu veux bien?
Ouais, donc okay. Soufiane sans con, slammer débutant.
Oh, tout de suite, la dévalorisation,
deuxième
ça
texte,
commence.
Deuxième texte de ma vie quand même.
Ah, c'est beau ça.
Ouais. Feu.
On t'écoute.
Donc, le ou les bien-pensants. Le bien-pensant pense bien penser, éperdument dans cette vérité qu'il est continuellement en train d'étaler. Ces bien-pensants qui ne peuvent pas s'empêcher de penser et de s'exprimer à la place de ceux pour qui ils pensent. Comme si on t'imposait une danse. Comme une injonction de devoir entrer en conformité. Comme une façon de t'imposer ses idées. Écrite ou orale, la leçon est toujours professorale. Il faudrait suivre sa direction, tourner en rond, mordre à l'hameçon, servir de chair à canon, accepter d'être pris pour un con, demander pardon et dire merci, merci tel un dindon. Chacun est libre d'aspirer à développer sa vision du bonheur. Chacun est libre de s'émanciper du regard et de la vie des donneurs, de leçons. Fuyons les préjugés et construisons les vrais sujets. Alors que s'essouffler, abdiquer, abandonner, simuler sont devenus monnaie courante, le bien-pensant s'installe tel une fiente. Même le crotal détale. Sa morsure semble inoffensive face à tant de puissance corrosive. Le bien-pensant, de l'humaniste au capitaliste, ne prend pas de recul. Tous les sujets tournent autour de ce qui le stimule. Sans détour, il fonce comme une mule, convaincu que son enclos correspond à l'idéal le plus vertueux. Rarement pourvu de bilan, qu'à longueur de temps, il étoffe allègrement, il suit le sens du vent en fonction de ses arrangements. Capable de retourner sa veste, à traduire les moindres faits et gestes, il juge et déjuge en usant de tous les stress subterfuges pour ne jamais perdre la face. Le bien-pensant est tenace, exigeant, rarement tolérant, souvent orientant, parfois du talent, continuellement malveillant, toujours fatigant. Ces bien-pensants clivants qui participent à l'avènement du sectarisme de nos dirigeants.
Merci beaucoup, Soufiane, pour ce très beau texte. Qu'est-ce qui te l'a inspiré, ce texte?
Est-ce qu'on peut avoir des noms?
Dis-nous tout.
Ce qui me l'a inspiré, beaucoup de gens au quotidien, des gens que tu rencontres, que tu côtoies, qui t'expliquent comment il faut faire, comment il faut être, comment lui il est trop petit, comment lui il est trop grand, comment lui il est trop moche, comment celui-ci va trop loin, comment celui-ci ne va pas assez loin, comment il faudrait s'habiller. Comment il faudrait apprendre à bronzer, comment il faudrait faire les choses. Et puis souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de bilan non plus ou qui pensent devoir faire les choses à la place des autres, mais qui ne les ont jamais faites et qui n'ont pas eu forcément le courage de passer le pas. Après, ça, c'est des regards. Hein. Mais voilà, c'est le quotidien. C'est ceux qui souhaiteraient infléchir. Et puis après, c'est le quotidien, mais c'est aussi ce qu'on voit à l'échelle départementale, régionale, nationale, internationale, ceux qui décident pour les autres. Donc c'est ce qu'on a à suivre tous les jours dans l'actualité. Ceux qui pensent qu'eux devraient aller là-bas et les autres devraient aller par là. Voilà, c'est un peu intemporel, comme ton texte de tout à l'heure. Et puis comme le tien également, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer à beaucoup de situations que chacun rencontre tous les jours. Et c'est pas forcément toujours évident pour avancer. Enfin, pour avancer sereinement, c'est sûr que c'est pas évident. Mais pour avancer tout court, parce que ce sont des freins.
Bien sûr.
Complètement. Par rapport à ce que tu disais, de ce que je vois de ce que tu dis aussi après le texte, moi, ça me fait surtout penser à divers éléments du quotidien, notamment pour, tu parlais tout à l'heure de minorités, notamment pour les minorités. On voit souvent des gens s'exprimer pour des minorités, qu'elles soient ethniques, sexuelles, de genre, etc. Des gens s'exprimer qui ne sont pas concernés. Je suis désolé du terme, le bon homme blanc cis qui vient de te parler comment les personnes racisées et pas hétéros vivent leur discrimination. Mais t'es pas concerné, qu'est-ce que tu en sais? Et c'est assez gênant de voir que souvent dans beaucoup de problématiques, c'est pas les concernés qui parlent. Je veux dire, dernier débat sur les droits de la femme que j'ai vu, il y avait plus d'hommes que de femmes. Ça me pose un problème à un moment. Je prends cet exemple-là, mais ça me pose un problème.
Il y a aussi beaucoup d'hommes politiques qui, tout le temps, à longueur de propos, disent les Français pensent, mais tu n'es pas les Français. Donc, je veux dire, à un moment, c'est se ramener à soi la parole de tout un peuple, c'est quand même c'est quand même extraordinairement prétentieux. Et ça, c'est ce qu'on a à entendre tous les jours, quoi. Donc c'est fatigant quand même à terme. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que, et c'est ce que j'aborde aussi dans le texte, c'est que ça, plus c'est gros, plus ça passe. Malgré tout, ça marche complètement, quoi. C'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression qu'ils sont dupes, quoi.
Est-ce qu'ils sont dupes ou est-ce qu'ils ont arrêté d'y croire?
Bah, je sais pas s'ils ont vraiment cru un jour déjà.
Ah, ça c'est encore autre chose, effectivement. Mais historiquement peut-être, mais effectivement c'est une vraie question. C'est un truc là parce que le texte est quand même éminemment politique, quand on parle français. C'est un truc que je vois beaucoup. Il y a de plus en plus de gens qui s'y désintéressent. À voir les taux de participation aux dernières élections. On a atteint, il me semble, lors des dernières présidentielles, le plus bas taux de participation. C'est quand même assez révélateur sur une élection qui est aussi importante. Donc j'ai un peu l'impression aussi que, comme tu parlais de représentativité tout à l'heure, qu'il y a un désintérêt qui est de plus en plus marqué, quoi. Peut-être parce qu'ils y croient plus.
Alors après, les bien-pensants, il y a aussi, on les retrouve dans tout, hein. On les retrouve dans le milieu, enfin, dans l'entrepreneuriat, on les retrouve dans le milieu associatif, on les retrouve dans le sport, on les retrouve dans la culture, ceux qui expliquent comment les autres devraient travailler, comment ils devraient faire, quelles démarches ils devraient initier et engager. Ceux qui expliquent comment certains n'arrivent pas à arriver à leur fin sans avoir eux-mêmes fait la démonstration de la façon dont il faille faire. Donc c'est quand même extraordinaire, hein. Et puis dans tout ça, quand on pose la puissance de l'idéologie, quand on pense la puissance de la religion, la puissance de la culture ou des cultures, on a une espèce de Boubi Boulga pour ceux qui ont cette référence, qui est absolument dévastatrice dans les relations de ce que certains aiment bien dire aujourd'hui. On parle souvent de vivre ensemble. C'est une belle phrase, ce sont de beaux mots, mais
de jolies théories,
mais dont malheureusement on tient pas suffisamment compte des situations des diverses des uns et des autres et du salut que chacun aspire à trouver dans sa perception qu'il a de la chose à partir du moment où ça embête pas celui qui est à côté de lui, quoi.
Bien sûr,
complètement.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as découvert le slam, Sofiane?
Alors le slam, moi j'en ai écouté un petit peu, enfin j'en écoute pas plus que ça en fait. C'est celui que j'ai entendu plus, c'est Grand Corps Malade. Après on a notre slammer local qui me touche dans ses
propos. Des noms. Le slammer local, c'est Ange, non?
J'en ai pas donné.
Non, mais justement, bon, on peut les citer.
Ouais, il y a Ange, ouais. Ange, oui. qui est un slammer.
Il est venu ici, hein.
Ouais, je sais, ouais, qui est très talentueux. Donc, c'est, après, il y a Design aussi, qui est fort, qui est arrivé il y a pas très longtemps et qui a remporté la soirée Jeune Talent, d'ailleurs.
Le concours Jeune Talent d'Orléans.
Tout à fait, concours Jeune Talent, dont je suis le créateur. Et qui permet de consacrer des talents comme ça qui sortent justement de ce qui est convenu, hein, les pratiques classiques et puis voilà, quoi. C'est vrai que quand je parle dans le texte de bien-pensant, c'est-à-dire que le bien-pensant pense qu'il faudrait rester dans des traditions, mais les choses évoluent. Et ce que je trouve remarquable dans la culture hip-hop d'une façon générale, c'est que c'est une culture qui se nourrit de tout, qui est pas regardante et qui est pas jugeante. À partir du moment où c'est efficace, à partir du moment où c'est beau, à partir du moment où on peut swinguer avec, à partir du moment où on peut partager, parce qu'il y a cette notion de partage là, d'échange, qui est énorme dans cette culture là les choses font, ils se l'approprient et après ils l'interprètent, le principe d'interprétation, et ils nourrissent avec leur sensibilité.
D'ailleurs, quand tu me parles de partage, t'es amené à quand même à travailler pas mal auprès de la jeunesse qui peut apprécier le rap, notamment la musique. Est-ce que tu leur parles un peu de ta passion pour le slam, ton intérêt du moins pour le slam?
Alors pour le slam, je sais pas si c'est le slam ou si c'est le texte. Alors du coup, c'est le slam dans lequel je me retrouve. Après, moi j'aime bien aussi le rap, mais et beaucoup la soul et le R&B, la nu soul. Donc c'est essentiellement la musique que j'écoute.
D'accord.
Pour ce qui est du rap. Le rap français, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui me font rêver. Tout à l'heure, je l'ai dit, DLJ, j'aime beaucoup ses textes. C'est quelqu'un que j'écoute. Orelsan, je trouve très fort aussi dans ses textes. C'est une espèce d'authenticité. Et puis, il y a des vraies histoires qui sont racontées avec des jeux de mots, des combinaisons et des tranches de vie qui sont quand même... il est fort, quoi. Il n'y a rien à dire. Et puis voilà, je sais pas, je trouve ça... moi, j'écris, j'aime bien écrire. J'ai été... chroniqueur radio quelques années, et puis en presse écrite sur le web pour Apostrophe 45 pendant quelques années aussi. Donc c'était c'est intéressant, j'aime bien poser mes idées, j'aime bien aussi les partager. Alors après, maintenant, quand ça fait l'objet de discussions potentielles derrière, je trouve ça intéressant.
D'accord. Et du coup, ça, tu l'utilises un peu avec les jeunes ou pas ?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Non. Moi, après, j'écris dans les publications que je peux faire sur les réseaux sociaux. J'aime bien écrire. J'aime bien, lorsque je fais des textes aussi, parfois faire des rimes. J'aime bien aussi provoquer un peu, être piquant. Voilà. Il y en a certains que ça dérange d'ailleurs. Alors,
j'ai une question par rapport à la bien-pensance. Parce que vous avez un rôle quand même, j'allais dire, social assez marqué en tant qu'adjoint. Donc, je le répète, au sport, à l'animation des quartiers, à la jeunesse. Vous avez été rédacteur aussi pour différents médias. On peut pas dire n'importe quoi aux gens. Il faut bien penser quand même. Il y a un moment, il faut penser bien, j'allais dire, on va donner un message, il faut qu'il soit clair, il est plus ou moins orienté ou engagé. Comment faire pour ne pas tomber dans la bien-pensance, justement ?
Non, mais enfin, après, il y a être bien-pensant, il y a être clivant, et puis il y a être dans la démarche, lorsqu'on a des responsabilités, à mon sens en tout cas, on ne doit pas enfermer les gens. On ne doit pas les enfermer dans un modèle, on ne doit pas les enfermer dans un schéma, on doit pas, on peut être force de proposition sur des lignes qui correspondent à ce qui nous appartient et à ce qu'on maîtrise. Mais après, il faut savoir aussi aller s'inspirer de ce que va apporter les uns et les autres et soit leur donner l'occasion de pouvoir s'émanciper eux-mêmes, vivre leur truc. Donc ça, dans la fonction d'élu qui est la mienne, il y a pas mal de dispositifs qui permettent d'accompagner des jeunes qui partent dans leur truc, quoi. Je veux dire, moi, j'ai rien à leur apprendre ou à leur dire dedans. Après, ils se font leur expérience, ils réussissent pas, mais au moins, ils auront tâché de s'accomplir dedans. Et je pense que c'est là où la mission, elle est importante, de pas être castrateur, quoi. Et c'est là où on donne l'occasion aux uns et aux autres. Après, ils se font leur expérience, ils se trompent. Et ils réussissent, et tant mieux. Mais en tout cas, ils vont en tirer quelque chose parce qu'ils seront engagés dans un projet commun dans lequel ils seront investis et impliqués et qui aura été porté par des convictions et par des intentions. Et des intentions qui auraient été suivies d'effets. Et c'est là où, moi, je pense que là, on a eu le week-end dernier le hip-hop international au Zénith d'Orléans. Donc ça aussi, ça dépend de ma délégation. C'est un truc que je porte... totalement depuis maintenant presque 10 ans, c'était les 10 ans là. On n'a pas eu toutes les éditions à Orléans, mais on en a eu un paquet, plus de la moitié. Et c'est extraordinaire de démonstration de créativité spontanée qui est portée exclusivement par les acteurs de la scène. C'est eux qui le portent, qui le vivent et qui font leur choré. Et c'est là où je trouve ça super, de leur donner l'occasion de pouvoir être dans un espace comme le Zénith d'Orléans, dans une culture qui est parconnue de tous. Mais pour ceux qui viennent le voir, disent waouh, c'est extraordinaire, quoi. Les messages envoyés, le dynamisme, la pluralité des publics qui est dans les gradins, et puis de ceux qui sont sur la scène. Franchement, ce sont des vrais paquets de crayons de couleur. Donc moi, je trouve ça super, et c'est ce qu'on devrait initier tout le temps, à mon sens en tout cas.
Dans le milieu politique, il y a de la bien-pensance aussi, je ne sais pas. Enfin, je ne sais plus qui c'est qui en parlait tout à l'heure, un petit côté traditionnaliste, promouvoir la culture telle qu'elle a existé depuis des années. Mmh. Pas forcément le hip-hop, je pense à ces personnes qui sont un peu réfractaires au rap, au hip-hop.
Ouais, bien
voilà.
Sûr.
Alors vous-même, et puis je pense aussi à Béatrice Ondulami qui a fait du hip-hop dans sa jeunesse. C'est quoi les réactions de vos collègues? Qu'est-ce qu'ils en pensent, vous, de cette initiative, par exemple, le hip-hop à Orléans, au Zénith. Il y en a qui grincent des dents. Alors, non. Je ne veux pas avoir des noms, mais ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qui empêche les choses d'avancer, justement, à ce niveau-là? Quel genre de discours?
Là, il n'y a rien qui empêche d'avancer, parce qu'il y a des moyens qui sont affectés à cet événement, comme il n'y en a pas un seul en France.
Bah, c'est bien, ouais,
donc,
c'est vrai. Ouais.
Pour en discuter avec les organisateurs qui ont le label HHI France, qui sont le 9-1 Pact, donc un groupe du 91, un 9-1 Pact, qui sont des danseurs qui ont été champions de France, champions du monde de danse chorégraphiée. Voilà, aujourd'hui, si on prend l'exemple du Juste Debout qui se déroule à Bercy tous les ans, c'est un événement qui est organisé par un danseur Bruce Ikenji, pour pas le nommer, il y a pas un sou de la mairie de Paris, il y a pas de financement, il y a pas de mise à disposition, donc il se débrouille. C'est une culture, la culture urbaine d'une façon générale est victime de cela, alors que c'est le rap aujourd'hui qui vend le plus de disques en France et voire dans le monde, je crois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette non reconnaissance là, cette espèce de frilosité. Quand on voit les récompenses de la musique, sont récompensés pas ceux qu'on le rap le plus ghetto, hein, mais ceux qu'on le rap le plus convenable, le plus lisse, le plus polissé, Donc c'est une espèce de d'hypocrisie farouche assumée par certains. Après. Il y a le Graff, il y a eu le Loire Artchaud, qui a consacré le Graff. Alors moi j'aimerais qu'on aille vers des pans de murs dédiés, mais à l'art graphique spontané, et pas, enfin on a le mur aujourd'hui, ce qui est déjà une très belle avancée, une très belle démarche, mais à mon sens en tout cas, le mode d'expression le plus authentique et le plus libre, ce serait des pans de mur qui seraient adressés à ceux qui ont souhaité s'exprimer de la façon dont ils le veulent, sans commande.
J'ai vu ça à Clermont-Ferrand dans la rue.
C'est fantastique ce qui est produit.
Bah, les choses ont bien évolué alors quand on regarde, en fait le bilan il est positif sur le hip-hop. Enfin, le hip-hop, c'est un mouvement positif à la base déjà.
Mais
le bilan sur son évolution. On a été un peu critique en début d'émission, mais il y a plein de choses parce que c'est pas que du rap, le hip-hop évidemment.
Ouais, bien sûr.
Quand on pense aux arts de rue, enfin là on parlait du slam évidemment, le graff, la danse, tout ça, les choses évoluent bien. Il y en avait qui grinçaient des dents, le djing, qui grinçaient des dents il y a une vingtaine d'années.
C'est les quatre piliers du hip-hop, tout à fait.
Et puis les jeunes,
Celui qui a l'initiative, c'est Kool Herc qui a initié les premières parties hip-hop aux États-Unis, il y a de belles avancées clairement. Il y a le festival de hip-hop que j'avais mis en place il y a quelques années de cela et qui avait bien fonctionné. Après, c'est pas facile d'organiser un événement comme celui-ci parce que les graffeurs, on organisait des battles de graff Place de Loire, on avait commencé sur des panneaux, après on avait fait ça sur des voitures, franchement c'était des moments magiques avec des démonstrations également de BMX, de la danse, du chant, des conférences, donc c'était super intéressant. Voilà, après les choses elles évoluent
Et du coup tes collègues ils sont au courant que tu slams?
Je sais pas forcément. Moi,
tu leur en as pas parlé?
Non, j'en parle pas moi.
Pourquoi tu les as pas croisés à la Java Pop?
Je fais ce que je veux.
Ils vont pas à la Java Pop apparemment.
Non, mais à partir du moment où moi je suis dans mes fonctions, que y a pas de, y a pas, je sors pas de la règle, etc. Parce que bien évidemment, lorsqu'on est élu dans une majorité, et qui plus est lorsqu'on a un maire qu'on représente, parfois, il est important de rester dans une posture et dans une ligne qui est celle d'être relativement, si ce n'est convenable, en tout cas respectueux de pas mal d'institutions et de la fonction notamment. Donc ça, là-dessus, moi, je n'ai jamais de débordement. Donc là-dessus, je suis. Puis après, je fais ce que je veux, effectivement. Hein. C'est-à-dire que si je veux aller faire du patin à glace, je fais du patin à glace. Si je veux faire un peu de slam, je fais un peu de slam. Si je veux dénoncer des choses, je les dénonce. Je suis pas encarté, moi. Donc j'ai pas de patrimoine idéologique qui fait que derrière, je reste dans un principe qui est celui de pas sortir du rang. Qui est tenu par le responsable orléanais, le responsable départemental, le responsable régional, le responsable national. Voilà, donc ça confère une certaine liberté qui m'appartient. Et puis, par contre, ça confère aussi des limites, hein, nécessairement. Mais en tout cas, moi, ça me va bien.
D'accord, ouais, donc tu te sens libre.
Ah, je suis libre.
C'est parfait. Je remercie, du coup...
L'émission qui suit n'est pas arrivée.
Ah.
Il y avait un deuxième slam. Ça va être une exclusivité du Bondy Blog Centre, c'est-à-dire que les auditeurs qui nous écoutent sur la FM devront aller écouter la suite de l'émission sur le site du Bondy Blog Centre. Et voilà comment on fait du phishing radiophonique. Vous avez vu ça? On vient de leur mettre le grappin là. Vous en voulez un peu plus? Vous en voulez encore? Allez surfer, on vous attend sur le Bondy Blog Centre pour avoir l'émission en intégrale et donc le deuxième slam. On continue l'émission.
Et n'hésitez pas. On a du temps. À aller sur ma page Facebook Al Pacino Officiel, où je reposte toutes les émissions du Bondy Blog Centre.
Et moi, je reposterai ton poste.
Et Sofiane, tu peux. Vous pouvez le...
On se reposte entre nous. Allez, on poursuit avec un deuxième texte.
On t'écoute.
Donc, c'est parti pour le deuxième texte.
On t'écoute.
Donc, le titre, c'est Parvenu et opportunisme. Le changement. À ceux qui se sont convaincus qu'ils allaient changer les choses. Ceux qui sciemment, lentement ou très rapidement, ont dégénéré comme s'installe une arthrose. Se conformer ou résister, sans pour autant être teubé. Une maladie irréversible ne se contrôle pas. Ce n'est pas une question de choix ou de je ne sais quoi, sur la base d'une foi, dont on s'arrange comme ça, au gré des parades, à la manière d'un palefroid. Ceux qui ont crié « ça va changer » et que le système a rattrapé, sans trop résister. Le confortable statut de notable peut s'acquérir sans courir, à condition d'écarter le principe des principes et de passer à table, régulièrement. Avancer pour reculer, avancer de nouveau, pour ses intérêts, en prenant les gens pour des nigauds, en faisant passer les autres pour des salauds. Mais ça passe, car le monde peut être naïf et lâche, voire sans mémoire. Le souvenir, trop souvent fugace, fait les affaires des calculateurs perfides qui s'emploient à trahir sans laisser de traces. Tutoyer le mensonge pour arriver à ses fins, servir de serviette éponge à la manière d'un pauvre machin, à ceux qui, pour essayer d'aller loin, vendraient leur prochain aussi facilement qu'ils serrent des mains, se comportant comme des moins que rien. J'oubliais. Éviter de se fâcher est également un principe de base dans une société où le courage te mène plus souvent au sarcophage que lorsque tu conviens de rester dans ta case. Sous la table, à récolter les miettes sans oublier d'astiquer le cuir, de la semelle à la languette, en ajustant toujours les soquettes. Le larbin avance plus ou moins bien, néanmoins, plus aucune liberté d'esprit ne lui appartient. Trop nombreux sont ceux qui protestent en silence ou à distance, avant de remballer leur arrogance dès lors que les maîtres les tensent ou leur donnent une récompense. Il suffit juste qu'ils les encensent pour provoquer une forme de jouissance qui renforce l'état de dépendance, dont, en réalité, ils ne souhaitent pas s'affranchir, comme une façon de fuir la charge de responsabilité à venir, dont les conséquences impliquent d'avoir du cuir, sans craindre de compromettre son devenir. Beaucoup ont tranché d'entrée dans la foulée, sans coup férir. Entre dignité et lâcheté, il faut savoir choisir.
Merci beaucoup sur ce texte. Merci beaucoup pour ce texte, et Soufiane. Ta réaction, Junkie Palace ?
C'est une phrase que j'avais eue d'abord lors de ton texte, Léonie, puis on avait dérivé. Mais au final, ça. Al Pacino, pardon.
Oh, mais c'est pas grave. je vois bien que vous vouliez pas m'appeler.
Je suis désolé. que j'avais eu donc pour ton texte, mais qui du coup s'adapte aussi à celui-là, c'était que nulle main ne frappe aussi fort que celle qui te dit qu'elle t'aime ou que c'est pour ton bien. Et c'est un petit peu l'idée que ça me représente, c'est-à-dire que du coup que ça me pour moi aussi je suis fatigué.
Ouais, ça y est,
l'idée que m'inspire ton texte, c'est-à-dire que finalement il y a vraiment ce côté très oppressif qui est comme tu disais tout à l'heure bien pensant, mais là du coup qui est plutôt faussement bienveillant pour garder le contrôle que tu évoquais aussi, c'est il y a vraiment cette espèce d'idée de faux cocon rempli de pointes empoisonnées, quoi. Et ça représente tellement une réalité qu'on a, sur laquelle on ferme les yeux que ça en est frappant.
Ouais. En tout cas, moi, je trouve que pour ton du coup troisième texte écrit et déclamé, je suis assez bluffée. Oh,
c'est la non, première fois.
C'est le deuxième. Là, c'était le deuxième pour l'émission.
Du coup, pour l'émission.
La première fois,
oui,
c'était la Java Pop.
Ah oui, voilà, d'accord, ok.
Pour ça, tout à l'heure, il nous dit que c'était son deuxième texte, et là, du coup, j'en ai déduit que c'était le troisième.
J'ai cru que j'étais fatigué, que j'avais loupé un bout d'émission.
Dis donc, on est tous fatigués ce soir. Ça va pas du tout. Non, mais ouais, franchement, je suis assez bluffée. Pour nous pencher un peu quand même sur le point de vue slam, plutôt que de l'actu, je trouve que tu déclames d'une manière assez intéressante. Tu sais capter l'attention et appuyer sur les mots forts. Et c'est une technique, hein. Et je trouve que tu l'appropries super bien. Donc je tiens à te féliciter. Je suis pas une experte, mais ça fait plaisir.
Merci de voir.
Avec plaisir, Sophie.
Alors, des fois, il y a une dérive entre le slam et la poésie. Ça n'a rien à voir. Ça peut se ressembler, mais ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, on avait parlé. Enfin là, tu viens d'en parler encore. Le point de vue, enfin c'est un peu le principe de l'émission, le point de vue des slameurs face à l'actu. Est-ce que, et on en a parlé aussi quand on parlait d'Idéal J, Kerry James, le rap conscient, quoi. Est-ce que l'artiste doit formuler un point de vue ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pas forcément. Après, il y a beaucoup d'artistes qui sont là, ils papillonnent, quoi. Il n'y a pas forcément de discours militant derrière, ça reste des promenades qui sont sympas, avec une musicalité, avec une production qui est forte, et qui sont là pour... Alors après, c'est la différence entre ceux qui vont marquer les esprits, et puis ceux qui vont être de passage avec des balades sympas. Et il y a ceux qui vont marquer les esprits et marquer les comportements. Et je sais que... tout à l'heure, je parlais d'idéalgie, et que moi, c'est des sons que j'écoutais lorsque je faisais de la compétition, donc en karaté, puisque j'étais international en karaté il y a très longtemps maintenant, quand j'étais plus jeune. Et quand je me souviens d'un championnat d'Europe où j'étais dans le quart et que j'allais combattre pour la finale, et j'écoutais Un nuage de fumée d'idéalgie, et c'était des chansons qui galvanisaient. Et moi, je sais que ça me portait musicalement, c'était fort, les propos étaient forts. Et donc ça m'a marqué, quoi. Il y a des chansons comme ça qui marquent dans la vie, avec des phrases clés qui peuvent être des tournants et accompagner certains virages. Lorsqu'on a besoin d'être rassuré, réconforté, lorsqu'on a besoin d'être boosté, il y a certaines musiques comme ça qu'on écoute et dans lesquelles on se retrouve et qui accompagnent nos cheminements dans nos vies respectives. Alors pour ceux qui aiment la musique, hein, pour ceux qui sont un peu mélomanes, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde.
Bien sûr.
Ouais, je trouve que c'est...
Oui, vas-y, excuse-moi.
Non, je t'en prie.
Ah, non.
Je trouve que cette question laisse assez perplexe quand même de savoir si on est obligé de donner une opinion ou pas quand on écrit, parce que bah, d'un côté, je suis d'accord avec ce que tu dis, Soufiane, je le perçois aussi, et d'un autre, je suis en train de me dire, mais quand on écrit, en fait, on dit ce qu'on pense. Mmh. Et, ou pas d'ailleurs, enfin, on n'est pas obligé de dire je pense ça, mais même si on parle de n'importe quoi, en fait, c'est de notre regard. Mmh. Et je trouve que ça induit un point de vue. Mais après, ça dépend encore ce qu'on appelle point de vue.
Hein. Sûr, ouais.
Si point de vue, c'est opinion sur un sujet,
savoir
se positionner.
J'ai souvent remarqué, parce que c'est la quatrième, qu'il y avait souvent quand même une opinion qui était formulée par les slameurs qui le faisaient. Alors après, il y en a qui jouent avec ça. Je pense à Design, qui est capable de faire quelque chose de plus papillonnant, de sympa à écouter, peut-être moins conscient.
Il
y a ce fond conscient quand même le slam qui revient souvent avec un message quand même. Enfin, je sais pas.
Après...
C'est peut-être l'émission qui veut ça. Hein. Je généralise.
Il y a de ça, je pense.
Aussi, je trouve les slameurs d'Orléans. Je pense que c'est ce qu'on se disait la dernière fois, justement, entre slameurs. On se disait que, quand même, sur Orléans, on entend quand même beaucoup de textes qui sont engagés ou du moins dans lesquels on affirme notre opinion, quoi. Mmh. Et sans tabou. Je pense que c'est aussi comme ça que c'est perçu sur Orléans. Alors après, est-ce que ça vient des autres slameurs, entre guillemets, cette notion d'hérédité, je découvre le slam de cette manière-là sur Orléans, du coup, est-ce que je considère le slam comme ça?
Vous
n'aviez
pas l'air d'accord, Soufiane?
Moi, je pense qu'il y a autant de slam et de façon de slammer qu'il y a de personnes.
C'est-à-dire bien sûr.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont très incisifs, il y a ceux qui sont plus poétiques, il y a ceux qui effectivement ont envie de s'amuser avec les mots de façon arrondie, d'autres qui ont envie d'être tranchants. Il y a ceux qui débitent telle une sulfateuse, il y a ceux qui envoient des scuds, il y a ceux qui sont relativement linéaires dans leurs propos avec une ligne qu'on retrouve du début et à la fin, mais au milieu effectivement c'était un peu plus léger, mais il y a toujours un corps, quoi, il y a toujours une consistance, et puis surtout il y a des sensibilités qui sont relatives à chacun, et puis il y a ceux qui sont en colère, il y a ceux qui le sont pas, il y a ceux qui le sont mais qui savent pas l'exprimer et qui du coup exorcise un peu tout cela en ayant un slam qui est un peu plus relâché, un peu plus léger, mais qui n'est pas forcément. Après, je pense que c'est des modes d'expression, quoi, qui sont relatifs. C'est comme quand on danse, c'est même quand on fait du sport. Chacun son style en fonction de son tempérament.
Mais du coup, par rapport à la question de base, je vais citer une phrase qui est pas de moi. Alors la personne parle pour le rap, mais il dit « Le bon rap, c'est quand ça fait kiffer ta tête et ton cœur ». Je pense que ça dépasse le cas du rap. Je pense que ça s'adresse pour l'art de manière générale. C'est-à-dire que des fois, être un texte un peu engagé, ça va plutôt faire travailler la tête peut-être que le cœur. Et au final, le texte engagé qui fait travailler la tête va bien marcher. Et des fois, on a juste besoin de quelque chose qui parle au cœur parce que c'est un sujet qui nous touche ou simplement on est dans un moment où on a plus envie d'émotion que de réfléchir. Et au final, on utilise les deux. Et je pense que dans l'art, c'est...
J'ai peur de... Genre, on peut pas rajouter les pieds aussi, non, quand même.
Si tu veux. Mon cœur, ma tête. Enfin, c'est ça, de gras encore malade. Ma tête, mon cœur et mes couilles. Ouais, je vois l'idée.
Ah non, j'ai pas dit ça. Non, je pensais.
C'est celle de grand corps malade. Ah, c'était pour citer un grand slammer.
Non, parce que des fois, c'est bien de danser tout simplement. Voilà.
Oui, c'est une forme d'art aussi, mais je pense que quand on regarde la danse, ça fait aussi soit travailler la tête, soit travailler le cœur. Les deux danseurs qui étaient passés à Ma France un incroyable talent, qui avaient dénoncé notamment les violences conjugales par la danse, sont un parfait exemple pour montrer que la danse peut aussi faire travailler la tête.
Mais ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, vous parliez de mon expérience en la matière. Moi, j'ai écouté, à part Ange et Design, quelques textes de Grand Corps Malade. Alors après, l'autre, là, je l'aime pas.
Abdelmalik.
Ah oui. J'aime pas son style. Moi, je colle pas à ça. C'est pas mon.
Un peu bien
pensant.
C'est
pas ma tasse de thé. Non. Ouais, c'est un peu trop.
Tout est relatif sur le bien pensant.
Il y a une approche pseudo intellectuelle. Enfin voilà, c'est il y a ce qu'il veut dégager de. Il y a le jeu de rôle dans lequel il est qui moi dans lequel je me retrouve pas. Mais ça me regarde. et on y a écouté que quelques-uns de ces textes-là, donc peut-être pas plus de 10 textes de slam. Enfin dans mon existence. Après je pars sur mon. Enfin en fait. Dans mon délire à moi, quoi. C'est-à-dire que je m'exprime comme ça, avec mon sens, les constructions que j'ai compris par rapport à la façon dont je souhaite les articuler. Et c'est là, justement, je trouve ça super intéressant comme discipline et comme matière. C'est qu'on peut arriver, sans avoir forcément beaucoup de références et autres connaissances en la matière, et y aller avec son flow à soi et son mode d'inspiration à soi. Et on est accepté malgré tout. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres cultures, mon cher.
Ça, c'est sûr. Je pense que c'est une des grandes qualités du slam. C'est pour ça aussi qu'on s'y sent famille. Hein.
Le hip-hop en général. Parce qu'on prend le graphe, c'est pareil. Bien les sûr. Gens sont acceptés avec ce qu'ils viennent.
Je pense que de manière générale, dans l'art...
J'ai dit avec ce qu'ils viennent, hein, vous avez remarqué.
on est tous fatigués.
Dans l'art, de manière générale, je pense que chacun a besoin d'avoir sa propre identité. Plus tu t'intègres plus ou moins facilement. Mais de manière générale, pour sortir du lot, il faut que tu aies ta propre identité. Sinon, c'est très compliqué, on se fend dans la masse. Et moi qui bosse notamment dans la vidéo, je vois que y a forcément dans ces éléments-là aussi, il faut la petite touche qui fait qu'on sait que bah, ça vient de tel réalisateur. Donc du coup, dans toutes les formes d'art, que ce soit slam, hip-hop, musique, danse, vidéo, etc., la petite touche d'identité, la petite touche personnelle fait ce petit plus qui fait qu'on n'a pas l'impression juste d'avoir un consommable, mais qu'on a vraiment un produit qui est propre à l'artiste. Alors j'entends bien qu'avec le commerce c'est pas toujours évident, avec la commercialisation de l'art c'est pas toujours évident, mais c'est cette petite personnalisation qui donne le petit plus.
Bien sûr.
Et ben voilà, le bonus spécial web est terminé.
Non, il sera terminé quand on en aura décidé. On balance un son.
On en parlait NTM avec le DJ qui est pris d'assaut dans une radio. Enfin, vous allez pas me faire ça quand même. Vas-y, DJ, on voit la purée. Non, ben on va envoyer le jingle, le générique.
Ouais.
Je te laisse remercier nos invités.
Bah oui, tout à fait. Nous remercions Junkie Palace et Soufiane Sancon d'être venus, mais aussi Daniel Begda de la technique et l'animation du Bondy Blog Centre, qui nous permet quand même de faire nos émissions et nos épisodes des slammers face à l'actu. Ah, c'est pas rien.
Très bonne question.
Faut juste me nourrir. Oui, quand on prend en otage, quand j'ai des droits, non.
Merci à vous
si
deux.
Si on prend en otage, on pourra plus faire d'émissions. Alors, on va y aller doucement.
C'est vous qui viendrez me libérer alors. Pour les autres qui m'auront pris en otage.
Ça part un peu en cacahuète. Je vous remercie tous de venir et puis on se donne rendez-vous à la Java Pop le 29 mai pour la session slam. Au revoir.
Merci à tous.